Et sans surprise, dans ces conversations, cette semaine, on va évoquer la tourmente géopolitique dans laquelle se trouve Israël ces dernières semaines et, bien sûr, les réactions à l'international de cette même tourmente géopolitique. On écoute Daniel Haber, il est au micro, bien sûr, de Blaise van der Linden.
Daniel Haber, bonjour.
Bonjour chers amis, bonjour Blaise.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors, c'est un peu particulier, mais nous faisons nos conversations ce mercredi matin. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet que l'on voit beaucoup ces derniers temps, que ce soit dans les médias ou sur la scène internationale. On remarque qu'Israël est dans la tourmente. La pression s'augmente et atteint des sommets. Alors, pour commencer, Daniel Haber, on constate énormément de condamnations. Pourquoi tant de condamnations? Et on reviendra en deuxième partie des réponses sur le timing de ces condamnations.
Oui, il est clair que le Hamas, alors évidemment les condamnations se focalisent sur Gaza, pas sur ailleurs, hein. Et sur Gaza, le Hamas s'accroche et on est à la fin du parcours, parce que bon, ça va bien se terminer, mais on ne sait pas encore comment ça va se terminer. Il y a encore des interrogations et c'est pour ça que c'est un moment assez particulier. On voit que le Hamas refuse tout accord, hein. Chaque fois qu'il y a un espoir d'accord, le Hamas refuse. Il faut comprendre pourquoi il le refuse. Et je crois qu'on a peut-être pas assez dit. On a longtemps cru que les otages, ils étaient conservés pour permettre au dernier moment aux leaders de Hamas de quitter Gaza tranquillement, sain et sauf. Pas du tout. Pas du tout. Les otages sont gardés pour que Hamas reste à Gaza. La clé, c'est ça. La clé, c'est rester à Gaza. Et donc, si, et c'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est que le Hamas cherche la victoire encore. Il a beau avoir accumulé des déboires, avoir été écrasé, il peut encore gagner. Parce que qu'est-ce que ça veut dire de gagner pour le Hamas? C'est même exsangue, même presque vaincu, s'il peut rester à Gaza, et si Israël est obligé de quitter Gaza, parce que c'est ça l'enjeu, hein, c'est quitter Gaza pour Israël, ils vont se reconstituer très vite. Ils ont déjà reconstitué toutes leurs miliciens. C'est pas compliqué d'embaucher des miliciens du Hamas. Tous les jeunes de Gaza sont au chômage aujourd'hui. Donc vous leur donnez un peu d'argent et une mitraillette et ça y est, ils sont là et ils sont soutenus par leur famille. Donc imaginons une seconde que le Hamas reste, les cris de victoire du Hamas et le signal qui va être envoyé à tous les ennemis d'Israël, qui est le suivant, suffit de résister assez longtemps à Israël, d'encaisser tous les coups qu'il faut, de faire tuer autant de Gazaouis qu'il faut, parce que chaque mort Gazaoui est une victoire pour le Hamas, c'est une victoire de communication. Et grâce à quoi le Hamas va-t-il gagner? Grâce à la pression occidentale. Ce sur quoi jouent les islamistes, c'est sur ce que j'appellerais les belles âmes occidentales. Tous ces gens qui sont pas des ennemis d'Israël, qui sont pas antisémites, mais qui sont dans l'émotion, qui sont dans la compassion, et qui, parce que la guerre de communication s'est focalisée sur ces pauvres Gazaouis qui souffrent, en mettant en avant deux termes épouvantables, génocide et famine, et c'est des termes qui ont fini par s'imposer dans le système médiatique, font pression sur leur gouvernement. Et donc ce qu'on voit sous nos yeux aujourd'hui, c'est cette opinion publique qui est au fond, certaines que ce que disent les islamistes, c'est vrai, parce que c'est validé par des personnalités, par des médias, par des juifs et même par des Israéliens. Alors, comment voulez-vous résister à ce torrent de conviction sur les fake news? Et donc, les gouvernements européens, tout à coup, prennent conscience qu'ils peuvent pas résister à ça. Et donc, ils sont en train de se séparer d'Israël pour ne pas être pris dans la condamnation globale de l'Occident. Ils disent non, nous on est des gens bien, on n'est pas comme Israël. Donc ils s'en séparent, ils condamnent Israël et ils ont un espoir, ces occidentaux non américains, l'Europe, le Canada, la Grande-Bretagne, peut-être les Australiens, l'espoir c'est de se concilier les bonnes grâces de ce qu'on appelle le Sud global. C'est la majorité des pays du monde, ceux qui font la majorité à l'ONU, et beaucoup d'Occidentaux non-américains se disant, puisque l'Amérique nous laisse tomber, raccrochons-nous au Sud global. Alors voilà un petit peu ce qui se joue en ce moment et qui explique ces condamnations d'Israël.
Pourquoi maintenant, Daniel?
Mais parce qu'il s'est passé quelque chose entre le 19 janvier et le 1er mars. Le 19 janvier, la veille de l'intronisation de Trump, Trump a imposé un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, et ce cessez-le-feu était épouvantable pour Israël, mais Israël n'a pas eu le choix que de l'accepter, parce que c'était la veille de l'intronisation, fallait faire plaisir à l'ami Trump. Cet accord s'est déroulé sous nos yeux pendant le mois de janvier, c'était la phase 1, où le Hamas a libéré quelques otages vivants et beaucoup de morts, contre des criminels. Dans des mises en scène épouvantables qui ont déchiré les pauvres Israéliens qui n'en pouvaient plus. Et tout à coup, on réalise que passer à la phase 2, c'est la défaite. Parce que la phase 2, c'est je rends tous les otages, moi le Hamas, mais vous partez. Et donc, les Israéliens ont réussi à convaincre Witkoff, le négociateur américain, que c'était pas possible. Et donc, avec l'accord des Américains, les Israéliens ont rompu l'accord. C'est vrai. C'est Israël qui a rompu l'accord du 19 janvier. Et donc, cette rupture de l'accord a immédiatement entraîné une réaction des ennemis d'Israël. C'est cette guerre de communication qui s'est accentuée. Alors, on avait le génocide, on a ajouté la famine. Parce que le 2 mars, Israël a fait un blocus alimentaire qui était justifié par Israël par le fait que il y avait des stocks suffisants qui étaient entrés à partir du 19 janvier jusqu'à tout le mois de janvier, tout le mois de février, des milliers de camions sont entrés. Donc le Hamas, qui a pris l'essentiel de ces camions, en a constitué des stocks dont ils se servent pour garder le gouvernement de Gaza, pour punir ceux qui sont méchants vis-à-vis du Hamas, pour récompenser les miliciens et leurs familles, et pour gagner de l'argent et s'acheter des armes. Donc, si vous voulez, il fallait pour Israël le temps de mettre en place un système alternatif qui est en place aujourd'hui, qu'on appelle le système global humanitarian, quoi, etc., qui marche avec une milice privée américaine qui assure la distribution sans le Hamas. Alors évidemment, toutes les ONG et l'ONU qui sont dans les mains du Hamas, d'une certaine manière, qui sont complices du Hamas, protestent, mais ça se fait quand même. Et donc, il n'y a jamais eu de famine. Il n'y a eu que des risques de famine, mais c'est pas la même chose que les famines. Et donc, ce moment-là, ce tournant, c'est le 2 mars, le blocus alimentaire, et le 18 mars, la reprise des combats, qui fait que tout à coup, Israël a été pointé du doigt comme celui qui rompait le cessez-le-feu et qui voulait pas la paix. Voilà. Voilà ce qui s'est joué.
Pour conclure, Daniel Haber, en une petite minute, car on touche à la fin de ces conversations, comment analyser l'attitude, notamment d'Emmanuel Macron et d'autres leaders européens qui ont, si on peut dire, un peu retourné leur veste?
Je crois qu'ils ont deux motivations. Une que j'ai déjà indiquée, c'est de dire ne pas se faire prendre dans l'opprobre anti-occidental, anti-colonial, dont ils sont les cibles. Le Sud global en veut évidemment à l'Europe pour son passé colonial. Le Sud global est anti-occidental. Mais ils espèrent être diriger la haine ou le ressentiment du Sud global d'une part vers les Américains. C'est eux les nouveaux colonisateurs, c'est pas nous. Et sur Israël. Nous, on est prêts à vous parler. Ça, c'est la première motivation. La deuxième motivation, c'est que tous ces pays ont chez eux des quantités importantes de musulmans, en gros 10%, souvent concentrés sur certaines grandes villes, et que c'est un problème intérieur majeur aujourd'hui que l'islam et l'islamisme qui prend le terreau de l'islam comme base. Et donc il faut à la fois régler un problème international de géopolitique et un problème intérieur. Et je crois que ces pays-là ont décidé de sacrifier Israël pour se sauver eux-mêmes. Je pense que c'est une illusion, on le verra par la suite, on aura l'occasion d'en reparler. Mais c'est ce qui explique aujourd'hui l'opprobre jeté sur Israël et qui aujourd'hui met Israël dans cette situation un peu épouvantable que nous vivons tous avec beaucoup de d'angoisse.
Daniel Havert, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce mercredi matin et puis on se retrouve lundi prochain pour de nouvelles conversations à nos horaires habituels. À la semaine prochaine.
À bientôt.